Radio Escapade vous propose un créneau de découverte.
L'écriture radiophonique sous toutes ses formes. Documentaire, fiction,
création sonore
et autres curiosités auditives. Documentaire. Fiction.
Création sonore.
Curiosité auditive.
La radio, c'est quelque chose de... On peut faire tellement de choses différentes.
Bonjour, cette semaine, dans le créneau de création sonore, nous avons sélectionné pour vous Pierre, un berger hors norme. À rebours d'une économie capitaliste qui fait de chaque être vivant une marchandise à valoriser, Pierre, berger en Cévennes depuis plus de 10 ans, n'exploite pas ses bêtes. Ni laine, ni lait, ni viande, il ne vend rien aux grandes dames de l'administration qui peinent à le faire rentrer dans une case. Alors que l'élevage intensif, l'agriculture intensive et l'industrie agroalimentaire affament les producteurs tout en empoisonnant les consommateurs, Pierre nous fait voir son monde fait de respect du vivant et de liberté toute puissante. Animé d'une verve vive et efficace, son récit est un vent de fraîcheur face à ce vieux monde qui s'éternise. Un podcast libre et sauvage.
Mégaphone.
Ouais, bah deux secondes. Mademoiselle les brebis, on y va? Allez à gauche. Oh, brebinette.
Je m'appelle Pierre Mireille, Pierre. Je suis berger à Saint-Michel-de-Dez, en Lozère, avec 130 brebis. Ça fait une quinzaine d'années maintenant. Ouais. Voilà, mais berger, plus berger qu'éleveur. Voilà. Moi, je suis pas agriculteur, hein. Je suis berger, quoi. Je mets bien la distinction. Ici, en Lozère, un agriculteur, il a un tracteur à 70 000 boules, il a 80 hectares, il fait des céréales, il fait du foin, voilà, moi j'ai que des bêtes et j'ai 10 hectares, c'est tout, quoi. Donc c'est pas, voilà, je suis pas agriculteur, ou exploitant agricole, ou toutes ces conneries-là. Et niveau thunes, je vis de la PAC, donc la politique agricole commune. Alors dans la politique agricole commune, dans l'élevage, il y a une partie qui s'appelle l'ICHN. Alors, indemnité compensatoire ou handicap naturel, j'y tiens parce que c'est pas une subvention, c'est une indemnité compensatoire, donc qui représente une somme bien conséquente. Moi, avec le troupeau, là, je fais 30 000 euros par an, quoi, d'ici à la chaîne. Donc, ça me permet de vivre. Alors, bon, la moitié qui part pour les bêtes, c'est imposé aussi. Bon, donc, c'est pas 30 000 euros dans la poche, faut pas délirer non plus. Et puis, un cahier de charge, c'est pas non plus on file 30 000 euros et puis vas-y, hein. Je me barre à Ibis à 3 mois. Bon, après, ça doit se faire, mais enfin, moi, c'est pas mon cas, quoi. Moi, il se trouve que cette indemnité, le cahier de charge de cette indemnité, elle rentre exactement dans ce que j'aimais faire, quoi. Ça aurait pas été le cas, j'aurais pas pris du CHN, mais il se trouve qu'il me paye pour faire ce que j'aime faire, quoi. Moi, mon trip, c'est de garder les brebis dans la forêt, c'est pas de leur faire faire des agnolages et de vendre des agneaux.
Bon, je vais rechanger l'eau, quand même, voilà.
La plus belle. j'ai des parents qui étaient très... mon père faisait beaucoup de montagne. Donc quand j'étais enfant, que mes parents ils étaient ensemble, on se retrouvait tous les week-ends, on était voilà, au Pic Saint-Loup, machin, toujours, toujours dehors. Enfin, moi, la campagne, ça me saoulait jusqu'à ce que j'ai 13-4... Un peu plus tard. Ouais, parce que je suis parti en Guadeloupe à 18 ans, je suis allé faire marin pêcheur en Guadeloupe. Et c'est le premier contact que j'ai eu avec une nature autre qu'humaine, quoi. Et c'est là où ça m'a ouvert les yeux, quand même. Mais je trouve qu'on est dans une société où le rapport avec le milieu naturel, bon ben voilà, on vit le rapport avec le milieu naturel. Putain, moi je savais même pas quand c'était ce qui faisait jour, quand c'était ce qui faisait nuit, j'allumais, j'éteignais la lumière, quoi. Je savais même pas si c'était l'été ou l'hiver, je m'en foutais, quoi. J'étais dans ma maison avec mon chauffage, quoi. Où j'étais au taf. Encore, bon, je bossais dehors, tu vois. Mais... Un mec qui bosse en bureau, ben, il peut faire n'importe quel temps, il s'en fout, quoi. Je trouve que c'est un peu dommage. Donc je suis arrivé en Guadeloupe avec 100 francs, c'était à l'époque des francs, quoi, et 100 francs, et mon sac. Donc j'étais pas parti pour longtemps, tu vois. Puis je retrouvais cailler du poisson dans une poissonnerie, et il y avait des marins pêcheurs qui ramenaient le poisson, et il y en a toutes les semaines, j'ai cassé les couilles. Ah, amène-moi avec toi, je pétais les couilles. Et au bout d'un moment, il m'a pris parce qu'il disait, ouais, je vais le calmer, quoi. Donc il m'a amené en mer, on a fait de la palangre, on a fait 3 jours de palangre non-stop, alors c'est jour et nuit, c'est... Moi, au bout de 40, j'ai fait 44 heures de taf et je commençais à m'endormir. Et puis il m'a gardé parce qu'il a vu que bon, j'étais acharné, quoi. Et j'ai passé 2 ans avec lui, après j'ai fait d'autres bateaux, quoi. J'ai voulu rentrer dans les eaux et forêts à un moment donné. Ils m'ont pas voulu, j'avais pas le bac. J'avais 40 ans déjà. J'ai dit, mais passer le bac en conduite d'arrivée, j'ai 40 ans, j'ai arrêté l'école le plus vite possible. C'est pas pour 40 ans, pareil, je vais passer le bac. Enfin, non, c'était pas possible.
Viens, bélier. Viens, gros bélier. Viens, la famille. Et oui, ce matin, vous sortez pas. On verra ça. Peut-être cet après-midi, ça va dépendre comment elles vont manger.
Et j'en suis arrivé là, à la suite d'une sorte de prise de conscience à 42 ans, à me demander si j'allais continuer à vivre en ville de la manière dont je vivais, avoir des demi-relations humaines, quoi. J'étais ouvrier spécialisé dans le bâtiment. Et là, je me suis dit, j'ai 42 ans, il faudra que je travaille au moins jusqu'à 60 ans, ou 65, je sais pas, à l'heure où vont les retraites, bon, peu importe. Et je peux pas continuer à travailler 20 ans avec des gars avec qui j'ai rien à voir. Donc j'ai dit ça, c'est fini, quoi. À la fois, c'est difficile de parler de liberté avec un troupeau où t'es contraint de le faire manger 6 heures par jour, quoi, tous les jours, quoi. Donc c'est difficile de parler de liberté, quoi. Parce que c'est quand même une certaine contrainte. Je veux dire, les jours où il rache, je suis à la fenêtre, je me dis, bon, je fais quoi? Voilà, je pose des questions, quoi. Bon, ici, je chie et je mange quand je veux, quoi. Voilà, et rien que ça, c'est, pour moi, c'est une forme de liberté qui est très, très précieuse. Parce que dès que t'es salarié, ça veut dire que t'as un patron, quoi. Tu rentres dans une hiérarchie, et en France, la hiérarchie du travail, elle est très importante. Les gens, ils aiment bien qu'il y ait un ouvrier, un patron. D'ailleurs, en France, on ne peut pas concevoir que les ouvriers ils puissent avoir leur boîte, quoi. Ça existe, enfin, je crois que c'est Duralex qui a fait ça, quoi. Ouais. Donc, ça peut fonctionner. Évidemment que ça peut fonctionner. Il n'y a pas besoin d'être intelligent pour comprendre qu'il n'y a pas besoin d'un patron. Il y a besoin d'ouvriers. Il n'y a pas besoin d'un patron. Un patron, il ne sert à rien. Il est juste là pour prendre de l'argent, quoi. Il est juste là pour prendre qu'on appelle ça la valeur ajoutée de l'ouvrier, quoi. C'est tout. Donc j'ai dit ça, c'est fini, quoi.
Hace que y es de far, añaute montañado. Las huellas de pastos son contes de puya que saben de incazón y a terrible camado. Mesquipota resta l'agido de bestia.
J'ai rencontré les brebis en Inde avec un berger nomade. Donc j'étais parti en vacances en Inde pour aller faire la fête à Pondichéry. Et je me suis retrouvé en Himachal Pradesh, c'est-à-dire dans le nord de l'Inde, quoi, à l'opposé de Pondichéry, grosso modo, à garder des brebis, des chèvres avec un berger gadi, donc indien, quoi. Et voilà, sa manière de vivre, et puisque ça donnait sur la personne, ça m'a beaucoup, beaucoup touché, quoi. Et bon, je sais très bien que bon, lui, il vit dans les Himalayas avec 200 chèvres, un pays qui est très très grand. Bon, ici, son mode de vie est impossible, quoi. Le nomadisme en France, à mon avis, c'est quasiment impossible, quoi. Mais par contre, de faire un truc qui s'en rapprochait un peu, quoi. C'est-à-dire moins administratif. Parce qu'en France, l'agriculture, au moins l'élevage, c'est normé administrativement d'une manière folle, quoi. D'ailleurs, moi, je connais beaucoup de gens qui ne font pas d'élevage à cause de ça, quoi. Jusqu'à il y a peu de temps, ils ne pouvaient pas fliquer. Ouais, tu pouvais vendre tes bêtes à droite, à gauche, faire tout ce que tu voulais. Maintenant, c'est fliqué à mort, quoi. Les boucles, enfin, voilà, quoi. Ça a changé en 30 ans. L'ancien propriétaire, quand j'ai acheté, il avait 77 ans. Il vient me voir, il me dit, ouais, Pierre, t'as du courage de faire ça. Je dis, Claude, t'as vu des chairs toute ta vie. Mais moi, je bouclais pas à l'époque. Il y avait besoin de boucler, il y avait pas d'obligation. Je faisais tout à la maison, je tuais à la maison, je vendais ma viande, personne ne me prenait la tête, quoi. Voilà, en une génération, oui, une génération, on a 40 ans, 30 ans, 35 ans d'écart, quoi. C'est devenu hein, du flicage total. Enfin, du flicage pas encore total, mais bien, quoi.
Oui, ma belle, j'arrive.
L'État, c'est une contrainte supplémentaire. Non seulement c'est une contrainte supplémentaire, mais en plus c'est une entrave au libre exercice de la profession d'agriculteur. Et toutes les normes agricoles, elles sortent de bureaucrates qui savent pas ce que c'est qu'une bestiole autre que les humains, quoi. Et ça, c'est des mecs qui sont payés par l'argent public, c'est ça le pire, quoi. C'est que c'est ton argent, mon argent, qui payons des mecs pour sortir des règles comme ça, c'est ça qui me tue, quoi. Voilà. Et que ces gars-là sont élus par personne, ils sont juste posés là, à des postes à 5000 euros par mois, pour sortir des études qui n'ont ni queue ni tête, quoi. Je vais donner un exemple, avec les vautours ici. Donc pendant 30 ans ou 40 ans, ils ont introduit des vautours. Ils ont nourri des vautours. Ils ont maintenant, il y a 7-8 ans, ils se sont aperçus qu'il y avait trop de vautours. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont arrêté de les nourrir. Maintenant, les vautours meurent de faim, ils attaquent les troupeaux. Voilà, quoi. Donc ça c'est un exemple d'écologie bruxelloise, ça c'est plutôt Bruxelles, quoi. Bon voilà, des actions quoi. Sans queue ni tête, tu vois, le loup, pendant 20 ans ils réintroduisent du loup, maintenant ils sont en train de parler de le mettre en nuisible. On marche pas sur la tête, non, bon bref. Donc ça c'est l'écologie hors sol, bon, qui n'a rien à voir avec une réalité, quelle qu'elle soit, quoi. Pour moi, quelqu'un qui n'est pas en relation avec notre espèce animale que les humains, et qui vient me parler du bien-être de ces autres espèces, il n'est pas crédible, quoi. C'est comme si un mec qui vient me parler de la natation, il aura beau avoir lu toute la bibliothèque sur la natation, s'il n'a jamais mis un pied dans l'eau, il n'est pas crédible, quoi.
Au dernier temps de la vache, il y a un monde entre sa viande et moi, et l'État qui prend des mesures, l'État qui mesure notre émoi. Et l'État qui prend des mesures fait monter un peu plus chaque mois.
Si les normes servaient à protéger les individus, hein, il n'y aurait pas de pesticides. D'accord ? Donc les normes ne servent pas à protéger les individus. Bah, les boucles et les puces, ça ne sert strictement à rien. Si je donne juste de l'argent à Chevillot, mais je n'ai pas la boîte, mais elle est derrière. Chevillot, c'est la boîte qui fait les boucles. C'est le seul qui se ramasse de l'argent dans cette histoire-là, quoi. Voilà, la première année, ils ont fait les boucles, c'est l'État qui payait les boucles. La deuxième année, ils ont dit « démerdez-vous ». Voilà, donc Chevillot, ben, ils vendent des boucles, là, ça, ils vendent des boucles à tout le monde. C'est qu'eux qui en vendent. Donc c'est un bon business, quoi. Chevillot, ça va être un cousin d'un mec, tu vois, d'un mec de je sais pas où, quoi. Et voilà, quoi, c'est un bon business qui fait cracher les paysans, encore une fois, quoi. Alors ça peut servir peut-être sur des exploitations où il y a 300 bêtes, les mecs, ils ont leur machine, ils font ce que... Bon, moi, j'ai 130 bêtes, ça me sert à rien. Mes bêtes, je les connais de tête, leurs boucles, j'en ai rien à foutre, quoi. Voilà, c'est une contrainte, dans la forêt elle s'accroche de partout, j'ai oublié de reboucler tous les ans parce que les boucles se pètent, quoi. Il va falloir m'expliquer en quoi boucler mes bêtes, ça défend la santé du consommateur. Il va falloir m'expliquer, alors on va me dire la traçabilité. Seulement sur un entrepôt de 100 bêtes, la traçabilité c'est, bon, oui, la traçabilité. Mais après la traçabilité ça sert à quoi au consommateur? Les petits c'est des, alors, je fais des agneaux sous la mer, des agneaux de parcours. Donc ils mangent à la mer et dehors, il n'y a pas de granulés. Ici je connais pas un gars qui n'utilise pas les granulés, quoi. Voilà, c'est-à-dire que quand tu achètes un agneau qui a 3 mois, ben il a été. Oh putain, le bel agneau et tout, moi j'ai des bonnes cotes. Ah non, il a été nourri à la nourriture industrielle, il sort de l'agro-industrie, quoi. Mon pote, c'est ce qu'il fait. Il me l'a dit une fois, il y a une dizaine d'années, il m'a dit ouais, ce que je fais, c'est pas bien. Voilà, parce que lui-même, il le sait, quoi. Mais bon, il a une famille à nourrir, il faut faire des agneaux, il fait des agneaux, quoi.
Hé, hey, mademoiselle, on descend? Viens, on descend.
Toutes ces normes, elles sont tournées pour l'agro-industriel. En France, c'est 80% de l'élevage, c'est de l'agro-industriel. Bah, il faudrait que j'ai un vétérinaire presque en permanence à la maison, quoi. Voilà, moi, les bêtes, elles voient le vétérinaire une fois tous les 5 ans pour une prophylaxie pour la brucellose, quoi, qui est obligatoire. Et l'avant-dernière fois où mon vétérinaire, maintenant, il est mort, mais il a vu mes bêtes, c'était la première fois qu'il voyait les bêtes. Ça faisait 10 ans qu'il était mon vétérinaire. Il me dit, oh, c'est la première fois que je vois tes bêtes. Voilà, j'ai pas besoin d'avoir un vétérinaire. Maintenant, je suis obligé d'avoir un vétérinaire référent. Donc l'an dernier, j'ai été interdit de troupeau parce que j'avais pas de vétérinaire référent, tu vois. Voilà, et j'ai envoyé une lettre au service vétérinaire, j'ai dit, mais j'ai pas besoin de vétérinaire. Mais c'est la loi, c'est comme ça. Voilà. Ouais. Le vétérinaire référent m'a dit, oh, par contre, je fais pas les soins. Moi, je monte pas voir vos bêtes. Hein. Ouais. C'était juste pour l'administration. Ouais. Ouais, mais ça vient, me dit, bon, vous êtes exploitant agricole? Non. Ah, vous faites quoi? Ben, moi, je suis berger. Ben, vous êtes exploitant agricole? Non, non, non. Il faut leur expliquer. Il faut tout leur expliquer parce qu'ils sont tellement habitués à utiliser des termes qui ne sont pas adaptés à ce qu'ils racontent, quoi. Puis surtout, c'est des termes qui sont faits pour faire accepter à tout le monde que c'est comme ça et pas autrement, quoi. Moi, je considère que dans une société où l'État ne veut pas d'individus, quoi. Ils veulent une masse, quoi. Et puis bon, ils sont violents, l'administration française, c'est violent, quoi. C'est, ouais, vous avez 15 jours pour faire ça, ou alors on vous prend votre troupeau, on vous prend votre maison, on vous pend au haut-court. Enfin bon, les mecs, ils sont... tout de suite, c'est des lettres de menace, quoi. Je les garde. Les tournures, j'hallucine, quoi. J'hallucine, c'est de la violence pure, quoi. Si moi, je fais la même lettre à l'administration, je me retrouve au tribunal direct, quoi. Eux, ils n'hésitent pas à la message, je leur ai déjà dit, ça. Voilà, alors, ça, c'est un exemple. Ça, c'est juste la chambre d'agriculture. Il m'envoie une facture, la première facture. Hein. En l'absence d'un règlement de la totalité des sommes dues, dans un délai de 20 jours, j'engagerai des poursuites par voie d'huissier. Les frais de procédure seront mis à votre charge concernant votre facture. Écarissage, cette relance est la dernière avant votre transfert à la dette à l'ATM. Enfin bon, bref. Les gars, il y a combien? Il y a 137 euros, d'accord. Ben, ça va, faut se calmer, quoi, tu vois. Faut se calmer, quoi. Ça fait 10 ans que je leur file de la thune. Bon.
Bougez pas! C'est pas là qu'on va, c'est pas là-bas.
Dis-là, ma belle.
Eh oui, on va aller du bon côté. On va pas passer notre vie à aller là-bas.
Donc ils m'ont fait un contrôle, puis la deuxième année, ils me font un deuxième contrôle. Mais sur 3 ans, tu sais. Nana, elle revient la deuxième année, j'ai dit, mais vous allez contrôler 2 ans pour rien, quoi. Non, non, mais c'est pas grave, je voulais voir comment ça évoluait et tout. Il a fallu que je leur explique, j'étais pas en train de blanchir de l'argent, enfin, voilà. C'est ça le pire. C'est que je suis pas... Eux, ils viennent me contrôler parce qu'ils croyaient que je gruge, mais je suis même pas en train d'essayer de les niquer, je vois rien à côté, quoi. Voilà, mais si tu veux, je te montre mon congélateur, mes agneaux, ils sont dans mon congélateur. Et d'ailleurs, la meuf, quand le congélateur, il était plein, c'est un grand congélo. J'ai dit, ah oui, mais ils sont où, vos agneaux? Venez, venez. Je l'ai amené, je lui ai dit, ouais, ils sont là, les agneaux. Bon, elle a bien compris. Il me dit, vous faites quoi avec ça? Je lui ai dit, bah, ça, c'est ma viande de l'année, quoi. Voilà, moi, je lui ai expliqué, hein, j'ai dit, le mot exploitation, ça, enfin, pour moi, le mot exploitation, c'est, tu pilles ce qu'il y a sur place. Une fois qu'il n'y a plus rien, tu vas un peu plus loin, tu vas exploiter plus loin, quoi. Ça se fait avec les animaux, ça se fait avec les plantes, ça se fait avec avec les minéraux. Bon, moi, je n'ai pas ce rapport-là avec le troupeau, quoi. Voilà, moi, administrativement, une brebis, c'est une bête de rente. Voilà, moi, c'est une brebis, quoi. Voilà, il n'y a pas de bête de rente, il n'y a pas de nanani, c'est pour ça que j'ai eu des contrôles MSA, parce que les gars viennent me voir, ils me disent, mais non, mais M. Niaï, c'est pas comme ça que ça marche, quoi. Je leur dis, non, mais ça, c'est sur votre papier. Moi, dans ma vie, ça marche autrement. La nana a très bien compris, d'ailleurs. Elle m'a dit, ce que vous faites, c'est très, très bien et tout. Bon, elle a parfaitement compris ce que je voulais dire, quoi. Voilà, tout simplement. Voilà, moi, mes brebis, c'est pas des bêtes de rente, quoi. C'est pas des bêtes qu'il faut qu'elles fassent des agneaux tout le temps et que si elles n'en font pas, qu'elles partent à l'abattoir. Ça n'existe pas, quoi. Voilà, j'ai à peu près 10% du troupeau qui a plus de 12 ans, quoi. Voilà, quoi. J'ai des bêtes qui ont 15 ans. Donc, elles sont en forme, elles sortent toujours. Le seul critère pour qu'une bête reste dans le troupeau, c'est qu'il faut qu'elle puisse sortir. Et puis qu'il faut qu'elle puisse s'alimenter à l'extérieur. Si elle ne peut pas s'alimenter à l'extérieur, c'est moi-même qui la bats et on n'en parle plus. Voilà.
Là derrière. Mais quoi? Mais rien du tout.
J'ai donné un exemple, c'était une dame qui était très sympa parce qu'elle m'a dit, vous pouvez tout me dire, du moins que ça reste dans le respect, tu vois, que je ne suis pas en train de l'insulter pour faire tout le monde. Elle me dit, vous pouvez tout me dire. Donc j'ai dit, vous venez chez moi comme quelqu'un de la mafia. Je lui ai dit, prenez le cas, je suis barman, enfin j'ai mon bar, et vous venez au bar, elle me dit, toi, donne-moi 3000 euros ou je crame ton bar, quoi. Ben là, vous venez exactement pareil, là, elle voulait 3000 euros de cotisation ou j'avais plus le droit d'exercer, quoi. Voilà, j'ai dit, donc vous venez exactement de la même manière, quoi. 3 000 euros que j'avais pas, évidemment, puisque je passe juste tous les ans, quoi. Elle m'a dit oui. Elle a tout à fait compris mon exemple, parce que bon, j'ai bien développé l'exemple. Elle m'a dit, bah oui, c'est comme ça, quoi. Elle m'a dit, mais c'est comme ça. Donc, à partir du moment où ils m'ont fait passer à titre principal, ils me font payer 350 euros de cotisation par an. C'est le prix minimum pour rentrer. Si je dis, oh, c'est cher, elle m'a dit, ah, mais c'est le prix minimum. Ah, oh, d'accord, pour être à table. Si tu veux jouer, c'est comme au poker, tu vois, c'est pareil. Si tu veux jouer, ça va te faire 3500 balles. Et à partir du moment où tu payes, on te lâche la grappe. À partir du moment où tu payes, tu peux faire ce que tu veux, peindre ta maison orange, plus vendre de bêtes, hein. Les mecs, ça fait 10 ans, ils s'occupent plus de moi. Enfin, pas 10 ans, mais 7 ou 8 ans, ils s'occupent plus de moi. terminé. Maintenant, dès qu'il m'envoie un truc à payer, je le paye tout de suite. Voilà, et ils s'occupent de moi. C'est pas compliqué, hein, tu vois. Et donc, ils veulent de l'argent, c'est tout. Bah, si vous voulez de l'argent, je vais vous donner de l'argent, tant que j'en ai, quoi. En plus, c'est même pas le mien, c'est Bruxelles qui me donne de l'argent pour que je leur redonne à la MSA, tu vois. Bon. Voilà, j'ai déjà dit, même à la MSA, j'ai dit, prenez-le directement à Bruxelles, ça ira plus vite. Moi, me cassez pas les couilles, quoi. Ils veulent pas, ils veulent que ça passe par moi, quoi. Eh oui, il faut que ça bosse, quoi.
Et à gauche.
Une vache à 1 000 francs, en quittant le Morbihan, devient chemin faisant comme par enchantement. Une vache à 5 000 francs, en arrivant au Mans, une vache à 5 000 francs. On ne sait pas comment, augmente de 20% en traversant le Mans et devient par conséquent une vache à 6 000 francs, une vache à 6 000 francs. C'est bougrement tentant. C'est bougrement tentant pour les gens d'Orléans d'en faire innocemment une vache à 10 000 francs, une vache à 10 000. En sortant de la ville, pris dans un tourbillon, devient un harpajon par un calcul habile, une vache à 20 000, 100 000 à Montlhéry.
Et puis, dans le métier de berger, mon ordinateur, il me sert. J'ai été obligé d'en prendre un pour les impôts. Voilà pourquoi j'étais obligé d'en prendre. Et cette année, j'étais trop obligé de prendre une imprimante parce que ces connards de la MSA, ils n'ont rien trouvé de mieux de faire des papiers qu'il faut imprimer. Ils font tout par internet, puis il faut envoyer des papiers imprimés. Donc j'ai été obligé d'acheter une imprimante, quoi. Donc, quand j'ai acheté l'ordinateur, j'ai envoyé un papier aux impôts, une lettre recommandée aux impôts, et je leur ai dit, c'est pas normal, quoi. C'est pas normal que je sois obligé de dépenser un abonnement et tout. Depuis 2015, c'est obligatoire, les impôts par internet. Donc t'as une amende de 90 euros. Au début, je payais des amendes, et puis bon, après, j'étais obligé de... j'étais obligé. Je suis pas anti-technologie, mais la manière dont les humains envisagent la technologie à l'heure actuelle, ouais, je suis anti-complet, ouais. Carrément, je pense que c'est ce qui va nous mener à notre perte de toute façon, quoi. Présentez-moi une technologie qui amène quelque chose dans ma vie, moi, et qui n'amène pas à une destruction. Parce que jusqu'à présent, on m'a amené que des technologies qui détruisent la vie à moi et aux gens qui la produisent. Donc bon, ça, c'est pas des technologies viables, quoi. Mais le jour où on m'amène une technologie qui amène quelque chose dans ma vie de positif, qui m'amène à une simplification de ma vie, je la prends. Mais jusqu'à présent, on m'en a pas amené. L'ordinateur, machin, ça, c'est que de la complication supplémentaire, quoi. Que ça. Donc bon, et puis moi, ça me va pas, parce que ces outils, je sais pas comment ça marche, quoi. Alors, il est pété, je le jette parce que je sais pas comment ça. Enfin, je vais le faire réparer parce que je sais pas comment ça marche. Alors que moi, je travaille avec des chaussures, avec une brouette et avec une fourche, quoi. Ça, je sais comment ça marche, quoi. Voilà, donc ma voiture, je sais comment elle marche. Le 4x4 là-haut, quand j'ai besoin de le réparer, je le répare, quoi. Ça, je peux pas le réparer, donc ça, c'est pas des outils pour moi, ça. Je pense qu'à partir du moment où tu sais pas réparer un outil ou tu as la compréhension de comment il fonctionne, ne l'utilise pas. Et puis, avant que j'ai l'ordinateur, à 9h30, 10h, j'étais au lit, quoi. Ah, maintenant, je suis au lit à minuit et demi, comme un con, quoi, hein, que je suis en déficit de sommeil tout le temps, quoi. Bah, la journée type, c'est pas compliqué. Alors, en hiver, une journée comme aujourd'hui, par exemple, je démarre à 8h, je sors les béliers 2h, à 10h, je les rentre, je vais faire du bois jusqu'à 11h. À 11h, je rentre, je déjeune une demi-heure. À midi, je sors les bêtes. Et à 6h, je rentre, je vais faire du bois et je rentre à la maison. L'été, je suis salarié. En fiche de paye, ouais. Là, moi, je monte avec mes bêtes, je pars de la maison, je monte sur le Mont Lozère avec les bêtes, je reste 4 mois avec, de juin à septembre. Et en septembre, je redescends avec mes bêtes, quoi. Enfin, on redescend à 4 personnes et puis bon, après, on se dispatche. Il y a 25 km à vol d'oiseau, tu vois, donc peut-être une trentaine de kilomètres. On pourrait le faire en une journée, mais 30 km, ça fait un peu beaucoup pour les bêtes, quoi. Et c'est spécial aux Cévennes. Alors c'est dans les autres régions, ils font des estives, les mecs qui portent en camion, ils font des 300 bornes pour aller dans les Alpes. Là, c'est du 25 bornes, tu vois, avec des petits troupeaux. L'estive, elle est pas très loin, elle dure pas 6 mois, elle dure 4 mois. Hop, on redescend, c'est toujours dans la même région. Et c'est typique des Cévennes. Moi, chez moi, l'été, il n'y a plus beaucoup d'eau. Et la matière azotée, c'est-à-dire tout ce qui est vert, l'herbe en général, il y en a très peu. Donc les bêtes, je les fais monter à un endroit où il y a de l'herbe. Et ici, le plus proche, c'est le Mont Lozère. C'est de l'herbe à perte de vue. Là, on a 700 hectares, il n'y a pas d'herbe, il n'y a que de l'herbe. Les chemins d'estive là, qu'il y a au-dessus de chez moi, il a été. La date la plus ancienne, c'est un procès verbal d'un seigneur parce que les paysans qui étaient dessus, donc les éleveurs se sont plaints, quoi. Et il a un peu plus de 1000 ans, quoi. Donc il y a 1000 ans, les drails ici étaient super utilisés. Les airs que tu connais, qui est un village qui est un peu à côté, au début du 20e, il y avait 300 000 bêtes qui passaient. Pendant 4 mois, il y avait des bêtes qui passaient, quoi. Voilà. Donc il y a tous les mecs qui cherchaient du taf, ils montaient aux airs et ils restaient là pendant 4 mois, ils attendaient les troupeaux, ils montaient avec les troupeaux en estive, quoi. Donc ça brassait ici, ça brassait de la brebis. Toutes les brebis du sud de la France, elles montaient par là, quoi. Ben non, aux airs, on est quatre troupeaux à passer. On doit être. Il y a Jean-Paul, il a 400 bêtes. François, il en a 100. Moi, j'en ai 120. Et l'autre, je sais pas. À mon avis, c'est 200 ou 300. Donc, il y a peut-être 1000 bêtes qui passent, 2000 bêtes. Ouais, donc 100 ans avant, il y avait 300 000. Quoi.
Des matis que seram, assis ou en son d'aviso, que tourneram trova, la maison d'Augusta, et plavon au maison, brembap et coupé d'isi, tous templares ses buts, qu'en comptes de tournar.
Voilà, en fait, c'est un groupement pastoral sur le Mont Lozère. Donc, ça fait au moins 50 ans qu'il existe, le groupement pastoral. Et je travaille pour eux. Donc, il y a 9 éleveurs. Ouais, 9 éleveurs. On réunit toutes les bêtes. Ça fait 1400 bêtes à l'arrivée. Et on est deux à garder tout ça. Enfin, on est deux à s'en occuper tout l'été, quoi. Voilà. Donc, le jour où il y en a un qui est en garde, et ben, l'autre, il s'occupe de tout ce qu'il y a à faire à côté. C'est-à-dire nettoyer le parc, s'occuper de l'infirmerie, des bêtes malades, et ainsi de suite, quoi. Très mal payé. Beaucoup de responsabilités, très mal payées. Ouais. Et donc là, on est en train d'essayer de monter notre propre groupement pastoral là-haut, tu vois. Là, on est en négociation avec des gens pour 200 hectares. Et notre but avec le collègue, ça serait de monter 400 bêtes et d'être indépendant, quoi. Donc, voilà, quoi. Et moi, il se trouve qu'ils veulent pas de bergers éleveurs, quoi. Voilà, ils veulent que les bergers qui montent là-haut, ils aient pas de bêtes, quoi. Donc, je sais pas si l'an prochain, je vais y remonter, c'est pas sûr. Parce que je veux rester avec mes bêtes, quoi. Elle monte à la montagne, et je vais rester avec elle. Mais bon, comme ils ne trouvent pas beaucoup de bergers sérieux, je pense que je vais remonter. Parce que Nathalie m'a dit, non mais t'inquiète, hein, ils ont vu comment tu travailles, ils vont te garder. Hein. Les éleveurs avec qui on bosse sur le Mont Lozère, les mecs, les agriculteurs, ils sont, l'été, ils sont 10 heures par jour sur leur tracteur. Et sur le tracteur. Hein, ils bossent 15 heures par jour, les mecs, ils bossent comme des chiens, quoi. Et pour payer leur putain de tracteur, quoi. L'agriculture, à l'heure actuelle, ça fait vivre la banque et ça fait vivre le vendeur de matériel. Voilà. Et le paysan, l'agriculteur n'en vit pas, quoi. Et le consommateur, il bouffe des pesticides, quoi. L'autre jour, j'ai regardé un petit documentaire. Ils sont dans une plaine à côté de Paris, peut-être la plaine de la Beauce, mais je suis même pas sûr. Les mecs, ils sont en avion, ils filment les champs. Et donc, c'est un mec, un expert des sols du vivant, machin, nan, nan, nan. Et il dit, là, tu regardes, tous les sols qui sont marrons, c'est des sols morts. Des sols où il n'y a plus rien dedans. Bon, là, c'était 90% des... voilà, tous les champs qui étaient cultivés, il n'y avait que de la terre. Avec plus que de la terre. Mon voisin, il fait pareil à côté. Il passe son temps à passer le motoculteur à tuer les vers de terre, à tout niquer, quoi. Je lui dis, mais tu tues tous les vers de terre sur ça? Ouais, vas-y, que je te passe le motoculteur. Hein, 24 heures, il fait de la poussière l'été. Il fait de poussière, il est content. Peut-être, au Moyen-Âge, les mecs, à Paris, toutes les maisons avaient un jardin. Et en fait, ils avaient un taux de productivité qui était, mais je crois, 70 ou 80% de plus que maintenant, quoi. Ils n'avaient pas de pesticides, ils n'avaient rien. Les mecs, ils savaient quelle plante aller avec quelle plante. Ils savaient à quel moment ils connaissaient parfaitement les plantes, ils connaissaient parfaitement la terre. Maintenant, un agriculteur, il connaît son tracteur. Il connaît le mec qui lui vend le tracteur, il connaît son banquier. Mais sa terre, il ne la connaît pas. Il ne sait même pas ce qu'il a soutenu, quoi. D'ailleurs, le président de l'Estive, à la fin de cette année, nous l'a dit. Il a dit, ouais, moi, il est en retraite, il lui reste 2 ou 3 ans de taf, il est à la retraite. Il m'a dit, maintenant, mon seul plaisir, c'est de me payer des tracteurs. J'ai assez d'argent pour pouvoir me payer. Donc, tous les 2 ans, il change de tracteur, il est content de lui, quoi. Voilà.
On va faire un tour dehors. On va voir ces petites brebis.
À droite.
Tiens, on va passer devant, elle va nous suivre. On va leur donner la direction, après je laisserai manger tranquille. Ils connaissent le pays aussi bien que moi. Enfin, même peut-être sûrement mieux. Comme les brebis, c'est pas des bêtes. Suivant les critères humains, c'est considéré comme des bêtes assez intelligentes. Bah, il faut profiter de leur intelligence, quoi. Elles ont la mémoire du pays, elles savent où est-ce qu'il y a du bon manger. Donc, la plupart du temps, j'arrête de les diriger, quoi. Bah, évidemment, quand je vois qu'elles font n'importe quoi, je les remets dans le droit chemin, quoi. Mais la plupart du temps, là, elles attendent que je les dirige, quoi. Mais... D'ici un quart d'heure, 20 minutes, tu vas voir, elles vont se. Et ce qui est marrant, c'est que. Tu vois, je décide d'aller là et puis d'un coup je décide de changer de direction, j'ai pas besoin de leur dire, quoi. Et souvent, elles changent de direction au moment où j'ai envie qu'elles changent de direction. Bon voilà, après chacun y croit ou pas, tu vois.
De la vache à 100 francs, on en mangeait autant. Autant qu'on en voulait, plus qu'il ne fallait, à midi au dîner, dans le café au lait de la vache à 500 francs. c'est déjà plus gênant. Moi, quand mange en moyenne 10 kilos par semaine, pour avoir mon comptant, je priverai les enfants de la vache à 1000 francs. De la vache à 1000 francs. Il vaut mieux carrément se gaver d'ortolans et se faire des homards tartinés de caviar de la vache à 2000 francs. Ce sera pour le jour de l'an. On la mangera truffée sur un grand canapé et on gardera le foie gras pour les autres jours du mois de la vache à 5000 francs. Ça deviendra un placement. Avec mes lingots d'or dans mon grand coffre-fort, j'entasserai des rumsteaks et des coupons de beefsteak de la vache à 5000 francs. Ça devient décourageant. C'est pas qu'on soit méchant, mais un beau jour pourtant, il faudra bien qu'on sache. On ne peut plus suivre la vache, oh la vache, la sale vache, oh la vache, nous rendra fous, oh la vache, la sale vache, oh la vache, nous rendra fous.
Tout peut être présent en radio, c'est épatant.
L'écriture radiophonique sous toutes ses formes. Documentaire, fiction,
création sonore
et autres curiosités auditives.